nouveau sur les marchés aujourd'hui après l'annonce de nouveaux résultats encourageants de l'entreprise Moderna concernant un vaccin contre le Covid-19. Vous en avez parlé. Une semaine après une annonce similaire de Pfizer, les investisseurs sont de plus en plus rassurés. Du côté des échanges, la journée fut ainsi marquée par une véritable ruée sur les valeurs vaccins, c'est-à-dire les entreprises qui souffrent des mesures sanitaires et qui sont donc sensibles aux avancées scientifiques contre le Covid-19. Côté aéronautique, par exemple, Airbus s'envole à plus 5%, Aéroport de Paris gagne 7% et Air France KLM est propulsé à plus de 11%. C'était RMD Michaelis.
Radio G. 101.5 FM.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
À l'écoute de l'oreille curieuse, je souris car il paraît qu'il y a des personnes qui sentent le virus dans l'air. Mais on va changer complètement d'ambiance. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne culturelle et locale de Radio G. C'est reparti pour une nouvelle semaine, toujours confinée et à distance, mais toujours ensemble à travers les ondes. Alors cette semaine, nous vous avons préparé un beau cocktail de chroniques et d'invités. Sally, par exemple, sera notre invitée mercredi. Mais je vous informe dès à présent qu'il n'y aura pas d'oreilles curieuses demain soir. À la place, vous retrouverez une émission spéciale de Funkadelica, l'émission Soul et Funk de Radio G pour une spéciale de 18h10 à 20h. Je suis ravie de leur laisser mon temps d'antenne car je pense que ça va être un très bon moment. Pour l'heure, l'oreille curieuse est bien à l'antenne et en direct et voici le programme de ce soir. Mehdi, alias Andrea Maya, vous plonge dans les arcanes du beatmaking. Il vous fera découvrir toutes les étapes de la création d'une instru, une instru qu'il a lui-même composée. José, quant à lui, notre expert nutrition, vous propose une nouvelle chronique de cacahuètes et compagnie. Une chronique qui nous sort de notre studio pour nous enrober de farine. Nous découvrirons ensemble le moulin de excusez-moi, j'ai failli vous dire n'importe quoi, le moulin de Sarré. Je pensais à un autre moulin de la région. La petite voix que vous entendez présentement, en dehors de la voix qui tourne sans cesse dans votre tête, c'est la mienne, Anneli, et je m'occupe dans cette émission d'appuyer sur les boutons, de choisir les titres, de vous dire des bêtises et de choisir un proverbe du jour. Aujourd'hui, ce n'est pas un proverbe, mais une citation de Karl Valentin. Il est comédien et réalisateur allemand. Alors, il est décédé, c'est vrai, car il a vécu au tout début du XXe siècle. En tout cas, il a dit... L'art, c'est beau, mais c'est du boulot. Je vous laisse sur cette vérité. Et comme chaque jour, c'est en musique qu'on débute l'oreille curieuse. Alors j'ai choisi un titre du premier album de Bonnie Banane, qui est sorti il y a quelques jours. Et avec ce titre, je pense à toutes les personnes qui ont de l'humour et qui ont le béguin. Et je dédie ce morceau à qui de droit, comme par exemple les personnes qui vous cuisinent des bons petits plats alors que vous n'êtes pas encore rentré chez vous, ou toutes ces autres personnes, parfois les mêmes, qui vous envoient de gentils mots d'amour ou d'amitié. Je vous laisse penser à qui vous voulez. On écoute Béguin de Bonnie Banane.
Thank you.
sais l'effet que tu me fais. Tu sais l'effet que tu me fais. Tu sais l'effet que tu me fais. Tu sais l'effet que tu me fais. À ta vue, je m'évanouis, prends mon pouls. C'est la cata, je louche et ça devient flou. Fais-tu exprès de me plaire? On peut lire sur toi comme dans un livre ouvert. Tu sais l'effet que tu me fais. 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 Complètement à l'ouest, j'ai perdu le nord, le sud. Faudrait pas que ça devienne une habitude. J'ai des effets secondaires. Des genoux qui flanchent et le mal mer. Eh ben dis donc, c'est le cas. Ça va crescendo. À qui la faute si je bégaye? Vas-y, mollo. Bébé, bébé, bébé.
Wow.
Tu sais l'effet que tu me fais. Bébé, bébé, bébé. Tu sais l'effet que tu me fais. Bébé, bébé, bébé. Tu sais l'effet que tu me fais. Bébé, bébé, bébé. Que tu me fais, bébé, bébé, bébé. J'ai le béguin pour toi. Tu crois que ça soit? J'ai le béguin trois fois rien. Mais ça promet, continue comme ça. Tu m'excites quand tu me respectes. Quand tu t'appliques, bébé, quand tu m'inspectes. Quand tu m'expliques qu'il faut pas qu'on s'inquiète. Tu me détends quand t'es tolérant. Tu sais l'effet que tu me fais.
Wow.
Tu sais l'effet que tu me fais. Tu me plais. Tu sais l'effet que tu me fais. Je ne réponds plus de rien. Tu sais l'effet que tu me fais. Tu ne sais que trop bien. Tu sais l'effet que tu me fais. Tu sais l'effet que tu me fais. Que tu me fais, tu sais l'effet que tu me fais. J'ai le béguin, j'ai le béguin, j'ai le béguin, j'ai le béguin.
Et maintenant qu'on a tous et toutes le béguin, on retrouve notre délicieuse chronique nutrition.
Cacahuètes et compagnie.
Salut José, est-ce qu'on t'entend?
Salut Annie, oui on m'entend. Enfin,
je suis ravie.
Vous m'entendez?
Oui. C'est parti.
Tout seul en train de danser derrière mon jingle.
C'est bon signe.
Donc bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RadioG.fr ou de 101.5 FM. J'ai une passion pour la confection de pâtes en tout genre. Donc les pâtes à quiche, à pizza, pâtes à crêpes, pancakes, enfin voilà. Et aussi la pâte à pain. Mmh. Donc je le conseille souvent lors de mes consultations avec mes patients que je vois, enfin lors de mes consultations diététiciens. Et j'aime bien aussi particulièrement la pâte à pain, donc avec de la levure déshydratée, de la levure de boulanger ou alors du levain, puis même du levain fait maison.
C'est voilà, faut
s'en occuper. Hein. Mmh. C'est comme à l'époque un petit tamagoshi, hein, faut toujours être derrière, faut lui donner à manger, mais c'est intéressant. J'utilise de la farine de la T45 à la T110, donc c'est les différentes sortes de farine qui existent, plus ou moins raffinées, la farine d'épeautre, de seigle ou même de la farine complète. Donc justement, en recherchant des farines un peu plus d'une qualité un peu plus naturelle, avec beaucoup moins de conservateurs, j'ai trouvé justement ce meunier qui fabrique encore de la farine avec des meules. Donc certes, des meules électriques aujourd'hui, mais avec la même méthode d'antan. Elle est située dans le 49 à Sarré, justement, là où tu as accroché tout à l'heure. donc j'ai été bien reçu, et donc je suis allé les rencontrer, et j'ai eu le droit à une visite complète. Et puis grâce au confinement, du coup, je peux faire plusieurs épisodes. Et donc, du coup, dans ce premier épisode, nous allons visiter le moulin et faire connaissance avec les salariés. Et on va un petit peu comprendre que la farine à Sarré, c'est quand même une histoire de famille.
On écoute le début ?
C'est parti. Allez.
J'arrive au moulin de Sarré pour faire une petite visite. Donc là, on entend le grain qui arrive, qui sort du camion, du tracteur là, et qui est en train d'être mis dans le moulin, je pense, pour le travailler. Petite rivière, un petit espace sympa à l'extérieur pour se poser, j'imagine, et avec une petite camionnette d'antan, une vieille camionnette de boulanger, voilà, c'est un peu pour vous poser le cadre. En pleine campagne du Maine-et-Loire, donc voilà, fermette, ça travaille la farine, voilà.
Oui, moi je m'appelle Sandrine Loriouf, enfin maintenant Deschamps puisque je suis mariée, mais au moulin je garde toujours mon nom Loriouf puisque la famille, enfin le moulin est lié à ce nom-là. Je suis la cinquième génération. Avant moi, mes parents se sont occupés du moulin et ils s'en occupent toujours. On est tous ensemble à gérer le moulin avec mon frère aussi également. On est assez complémentaires puisque lui s'occupe de toute la partie production, maintenance. Il a les mains vraiment dans la machine alors que moi je suis plus à la gestion, l'administratif, le côté commercial et communication. Mes parents apportent l'avantage de connaître très bien le métier puisque vraiment il y a cette transmission qui a été faite depuis mon arrière-grand-père. Après moi j'ai eu un cursus très commercial, je suis partie au début en école de commerce pour justement apporter cette nouveauté à l'entreprise, ce côté un petit peu marketing, cette communication qui aujourd'hui est nécessaire pour qu'une entreprise survive. Donc chacun se complète, chacun apporte ses compétences et on est vraiment très complémentaires tous ensemble à travailler en famille.
Ok, et ça se passe bien de travailler en famille ?
Il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est comme partout. Il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des repas de famille qui ressemblent plus à des réunions d'entreprise. Oui, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien.
Bon, très bien. Je suis José de Radio G, de la radio Angevine. Et du coup, bah voilà, j'étais venu vous voir. On discute un peu autour du moulin, voir un peu votre façon de travailler aussi.
On va aller voir le vieux moulin.
L'ancienne meule, elle fonctionne toujours ou pas ?
Pour les visites uniquement, oui.
D'accord,
en fait,
okay.
On peut le mettre en route pour les démonstrations. Après, d'accord, ça ne produit pas de farine.
D'accord.
Parce que l'outil en lui-même, il est trop dur à entretenir pour que ça vaille le coup.
Bien sûr.
De sortir la farine.
Ok, ok.
D'accord. L'entretien, c'est plus aux normes, tout ça.
D'accord, bien sûr. Ok, très bien.
Mais c'est un super outil de démonstration.
Ok.
Vous voulez qu'on commence par là ?
Allez, on y va.
Ça, c'est parti.
T'as voulu faire une pause dans cette immersion du moulin, José ?
Oui, alors justement, c'est pour expliquer aux auditeurs. Donc, du coup, on vient de se présenter. Et du coup là nous allons sortir et du coup il y a du bruit, mais par contre on entend quand même ce qu'on dit, et le bruit c'est parce qu'il y a des camions, des tracteurs, et du coup le moulin est aussi en marche, mais on entend quand même ce qui est dit. Voilà, c'était pour que vous, c'est pas une erreur technique, c'est vraiment c'est comme ça.
C'est à fait au mieux avec les gens qui travaillaient sur place et qui n'ont pas pris un jour de congé pour le reportage.
Non. Très bien.
Bon, c'est, bah, ça. C'est reparti au moulin dans son ambiance.
Ça c'est la production actuelle dans le moulin qui a été construit dans les années 90.
Très bien.
Donc on a gardé le même principe des meules de pierre qui est l'écrasement artisanal.
D'accord.
Qui permet d'avoir une qualité beaucoup plus intéressante qu'avec les cylindres, l'appareil industriel. Donc du coup on a, là il est alimenté par l'électricité, contrairement au vieux moulin qui lui est alimenté par la roue à Auger, alimentée elle-même par le ruisseau. Donc c'est juste qu'on a changé l'énergie de base parce que forcément le ruisseau, en fonction du débit, on n'a pas toujours la même production. Donc là on a juste apporté l'électricité sur la production, mais l'outil reste le même. c'est-à-dire la Meute de Pierre.
Du coup, c'est le ruisseau d'époque ?
Oui, c'est le ruisseau d'abord. Donc en fait, il passait pas exactement par là. On a fait un bief, mais il y a très longtemps, puisque c'était... En fait, le moulin, il appartient à ma famille depuis... moi, je suis la cinquième génération.
Ah, d'accord.
Du coup, le bief a été fait au moment où... Pas par rapport à ma famille, hein, parce qu'avant ma famille, il était encore... Il était déjà là, le moulin. Il n'était pas aussi développé, mais le bief a été fait... je ne saurais pas vous dire les années précises.
Donc là, on passe sur le petit pont, en fait, qui recouvre le bief, comme vous dites.
Oui, c'est ça, qui passe après, en dessous, le moulin. Donc on va y accéder de l'autre côté. On va commencer par aller voir la roue, par là.
Très bien.
Ça commence. Du temps de mon arrière-grand-père et de mon grand-père, en fait, le moulin était sur Meule de Pierre et ils ont pris le pli, comme tous les autres moulins, d'installer des cylindres, de se passer à l'industriel. Parce que au niveau du débit, c'est plus intéressant d'avoir des cylindres.
Oui,
ça va
sûr.
Plus vite, on a de la farine plus fine aussi. Oui. C'était à l'époque où on cherchait à avoir du pain blanc. Donc ça correspondait un petit peu à la demande. Et comme mon père est arrivé à reprendre l'entreprise, s'est dit... non, c'est pas notre cœur de métier. Et puis, ils souhaitaient revenir du coup à la Meule de Pierre. Donc, ils ont désinstallé les cylindres qui avaient été installés dans le vieux moulin et ils y ont remis les meules, pas forcément d'origine parce que certaines étaient abîmées, mais ils ont remis les meules avec son fonctionnement de base.
Parfait.
Donc, on est revenu en arrière et puis on a gardé du coup cet outil-là.
D'accord. Donc là, on accède au moulin. Donc, c'est une porte en bois.
Une porte fermière, oui, okay. De bâton.
Ah, parfait.
On met en route,
c'était pour les... D'accord. Ah oui, donc la meule en bois. Alors celle-là, elle est d'époque, hein. C'est
la
ça.
La roue, on l'a changée dernièrement. Elle a changé sur le prix, je ne me souviens plus.
C'est la roue. Pour vous expliquer un petit peu, on arrive à côté de la roue. L'eau qui coule, c'est l'eau du ruisseau qui coule sur la roue. La roue en bois, elle fait 3-4 mètres de diamètre facile. On est dans une petite pièce sous voûte, enfin sous solive. Des petites affichettes sur le mur pour un petit peu expliquer la famille, les différentes familles, c'est ça?
C'est ça, oui. L'histoire du moulin, depuis, là, on a le temps, 1666. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, les premiers propriétaires qu'on a retracés, c'était la famille Aval.
D'accord. Et ensuite, non, famille Amont. Et du coup, ils se le vendaient
Oui, c'était la revente. Ou alors de l'héritage au dernier héritant. Là, par exemple, c'était l'héritier, le neveu.
D'accord.
Et concernant notre famille, c'est arrivé dans notre famille puisque le propriétaire n'avait pas d'héritier. Donc, c'est son ouvrier. Donc, à l'époque, c'était Louis Loriot qui... je ne sais pas s'il l'a racheté ou s'il a plus ou moins hérité de l'ancien propriétaire.
Parfait. Et c'est resté là?
Et c'est resté dans la famille. Maintenant, donc il y a eu Louis, Henri, Roger, Denis, mon papa.
D'accord.
Et là maintenant, moi, la cinquième génération.
D'accord.
Avec mes frères, on est...
Vous avez repris.
Ouais.
C'est bien ça. Et ça va, vous arrivez à en vivre?
Oui, tout à fait. Alors après, le moulin n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. On a amélioré l'outil pour avoir un certain débit, surtout la construction du nouveau moulin, parce qu'avec seulement le vieux moulin, on n'arrivait pas à sortir suffisamment de farine pour en vivre. Ensuite, on a aussi élaboré notre offre, puisque on propose aussi maintenant des fouets, des petits pains faits à base de notre farine.
D'accord.
Des petits pains locaux.
Ah oui, des fouets, d'accord.
Des fouets, oui.
Oui.
donc du coup, on a construit un restaurant sur place, et puis l'accueil du public aussi pour visiter le moulin. c'est un petit plus, ça donne une bonne image au moulin.
Et par où je suis arrivée, c'est une boulangerie?
Oui, alors le mercredi et le vendredi, effectivement, on fait boulangerie, mais le but de cette boulangerie, c'est essentiellement de tester, en fait, la farine.
Ah,
vu que nos clients, ce sont des boulangers, on fait vraiment la traçabilité de la farine depuis la réception des blés jusqu'à la panification.
Parfait.
Comme ça, on détecte s'il y a le moindre souci à la panification pour les boulangers. On peut bloquer un lot ou les prévenir après, surtout en leur disant bah, sur ce lot-là, on a eu un petit souci d'humidité ou des choses comme ça.
Okay.
Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un produit de qualité présenté à nos clients.
Parfait. Du coup, là, la petite échelle, donc c'est...
En fait, le ruisseau arrive en haut. Il faut, la trappe est fermée.
D'accord.
Pour réduire le débit.
D'accord.
Mais si on ouvre la trappe, l'eau, du coup, arrive sur la roue à OG.
Okay.
Chaque godet de la roue se remplit et là, par le poids de l'eau, en fait, se met à tourner.
Comme.
Et du coup, là, ensuite, la roue est reliée à un axe principal.
Sure.
Qui ensuite pourra entraîner les engrenages.
Juste à côté.
C'est vraiment le moteur du moulin. Donc bah, forcément, quand il n'y a pas de débit, il n'y a pas de moteur.
Forcément. Donc on passe dans la pièce qui se trouve juste à côté. Voilà. D'accord. Donc de gros engrenages. Ah oui.
On retrouve en fait l'axe principal, c'est celui-là.
D'accord.
Il est relié à donc deux engrenages, un principal, ensuite un autre petit. C'est tout un système d'engrenages qui va faire que ça va entraîner en fait les meules. On commence à les apercevoir
ici. Ah oui, bien.
Par le dessous en fait. Ça, c'est la meule du dessous. La
okay.
meule, ce qu'on appelle dormante, parce qu'en fait, dans les meules, c'est toujours par paire.
Par deux, d'accord.
Il y en a une en dessous, c'est la meule dormante qui ne bouge pas, et celle d'au-dessus qui tourne.
D'accord.
Donc les engrenages vont ensuite entraîner les meules de pierre, mais aussi tout le système pour entraîner la farine à différents endroits. Parce qu'après être écrasé, il faut aussi l'acheminer au tamis pour l'affiner, la trier en fonction de sa finesse. Et donc tout ce système-là est entraîné par les engrenages et les poulies, etc.
Parfait. Et alors, ce petit espace-là ?
Là, c'était là où on ensachait la farine.
Voilà, donc c'est resté un peu comme musée, c'est ça ?
Oui, c'est,
voilà,
c'est ça.
Un petit point où on voyait la farine descendre, arriver directement dans un sachet.
Là, et pour arriver dans le sac. Et puis ben, ensuite, vous aviez des systèmes de balance là pour peser le sac.
Les balances d'époque.
Oui, qui sont plus du tout
oui, d'accord, okay.
aux normes.
Alors, ça peut être sympa de venir visiter.
Effectivement, on a beaucoup de visites. Ça peut être en famille, pour les enfants, c'est très intéressant de comprendre le cheminement du blé jusqu'à la farine. On reçoit aussi beaucoup d'écoles dans un programme scolaire, toute une sortie où en fait ils visitent le moulin. Après, au restaurant, ils ont un déjeuner. Ils apprennent aussi à faire du pain.
Ah, oui.
Et ils repartent comme ça avec leur petit pain. C'est vraiment très pédagogue.
Très bien. Et avec la cuisson du pain et tout, toute la démarche.
Oui, ils font vraiment le pain.
Plusieurs pousses et.
Oui, on leur explique, voilà, c'est eux qui mélangent la farine, chacun fait son petit pain.
D'accord.
Avec la forme qu'ils le souhaitent, et puis après, c'est enfourné et ils repartent avec.
Parfait. Ils doivent être contents.
Ouais, en général, ça plaît beaucoup.
Ok, donc c'est une grande pièce. Et du coup, l'escalier, c'est pour la meule là-haut.
Pour aller voir la meule. Mais je vais fermer la porte avant et puis.
Fermons la porte.
On ferme la porte pour cette première partie sur le moulin.
Oui, exactement. La porte bien fermée. Une vieille porte d'époque en plus, avec l'ancien loquet, clac. Très bien. Donc du coup, je voulais juste remercier la famille Lorieux, donc principalement Sandrine, avec qui j'ai fait cette visite, de m'avoir permis de faire son premier épisode. Donc si je me rappelle bien, donc la deuxième et dernière partie, ce sera dans un mois, donc le 14 décembre.
Ouais,
et
tout à fait.
Dans deux semaines, on se voit pour une chronique sur le contenu d'un petit déj idéal. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, José. Moi, ça m'a donné envie de visiter ce moulin, de faire du pain, de goûter de la farine.
Ouais, il faut y aller, hein, c'est sympa.
Ouais, le moulin de Sarré.
Le moulin de Sarré.
Merci beaucoup et à dans deux semaines pour la prochaine.
À dans deux semaines.
Cacahuètes et compagnie. Pour le moment, on poursuit l'oreille curieuse avec un titre. Alors, c'est une chanteuse qui s'appelle Renata Flores. Le nom du morceau, c'est Cam Ina. Et cette chanteuse, elle vient du Pérou. Et elle a la particularité, car c'est assez rare, de chanter, de faire de la musique actuelle en quechua. qui est une langue locale. Donc c'est parti pour Kamina.
Brincaspa, guaraja sasco y etama haikun, mana tu cuo, jote jucha y acuta sabios pa chiquita chimpa y kun, chaymi chumpa watayu, pampa yurak pipa puto ispa, nyore pa chapi purini jucruna, si mi pitisimo yu pa chata ya cheja muta e pag, pisi panita ta y acuta chasquita, ya, quizá pa chapi tu guni, sukta pa chapi, chayara muni, acti chinka juta hayarin, japa kupamos en ella, a ti pa cuba. Chuy mataroita Y tu michi si ya iban con una cu Mi paz Uya ni chujis pe pachataya Chani chu Guay Mancha cuita paque Mancha cuita paque
Pour finir cette émission, on prend le temps de détricoter un morceau et c'est avec Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Anne. Bonjour auditrice et auditeur. C'est moi Mehdi alias Andrea Maya, beatmaker et compositeur en musique assistée par ordinateur. Donc ce soir, on va parler un peu de beatmaking. Je vais donc vous présenter une instrumentale que j'ai composée et aussi vous expliquer le processus de sa création. Cet instrumental s'appelle Somewhere in China, dans un style plutôt trap ambiante. Alors pour la créer, j'ai utilisé le séquenceur FL Studio. Un séquenceur, c'est un outil ou logiciel capable d'enregistrer et exécuter une séquence de commandes permettant de piloter des instruments de musique électronique Donc en gros, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer et composer de la musique sur un ordinateur. On citera par exemple Ableton, Cubase ou FL Studio que moi-même j'utilise. Et il y en a bien sûr beaucoup d'autres. J'ai aussi utilisé des voix, des sons de batterie et des sons de percussion en audio, c'est-à-dire des sons déjà enregistrés en format MP3 ou WAV dans ce qu'on appelle des drum kits. Ils sont des fichiers regroupant plusieurs sons enregistrés et utilisables à souhait par les beatmakers dans leur séquenceur. Et enfin, j'ai utilisé aussi des VST. Pour ceux qui ne connaissent pas, un VST, qu'on appelle aussi un plugin, c'est un programme qui émule les instruments ou des effets. C'est beaucoup utilisé en musique assistée par ordinateur. Un exemple, un guitariste va utiliser une pédale d'effet branchée à sa guitare pour créer un effet wah-wah ou reverb, par exemple. Eh bien, cet effet, il peut être reproduit dans un VST qu'on utilisera sur un ordinateur. Et il y a donc des VST utilisés pour les effets et aussi pour jouer des instruments virtuels comme ceux que j'ai utilisés dans Somewhere in China. Donc, pour commencer, je vais vous faire écouter l'intro tout de suite. À composer, j'ai imaginé une mélodie avec une guitare virtuelle provenant du VST Morphine qui est disponible que sur FL Studio. J'ai ensuite harmonisé cette mélodie, c'est-à-dire que j'ai joué des accords sur cette mélodie pour créer une couleur particulière. Pour rappel, un accord, c'est quand on joue trois notes minimum en même temps. Et cette mélodie harmonisée sera reconnaissable et constitue l'élément principal de cet instrumental. Dans la deuxième partie de l'intro, j'ai ajouté une clochette du VST Morphine aussi, qui fait penser au son des boîtes à musique à manivelle, et j'ai fait une mélodie avec qui vient accompagner la guitare. L'intro était donc terminée, j'ai pu passer directement à ce qu'on appelle le premier couplet. Je vous laisse tout de suite écouter ça. Dans la première partie du couplet, le thème de la guitare disparaît. J'ai gardé la clochette qui ne fera que quelques notes et j'ai ajouté un synthé qui fait des accords. Et j'ai ensuite ajouté un gros kick qui est la grosse caisse dans une batterie, une snares avec un effet de reverb pour le côté planant et enfin une sub-basse du VST massive parce qu'une basse dans une instru trap, c'est vraiment important. Dans la deuxième partie du couplet, j'enlève la clochette et les accords faits avec le synthé. J'ai replacé le thème de la guitare, donc le thème principal. J'ai ajouté des percussions et une charleston qu'on appelle hi-hat en anglais, qui donnera plus de dynamisme à la batterie. Et sur tous ces nouveaux éléments, j'ai mis de la reverb pour donner de la profondeur à l'instrumental. À la fin du premier couplet, on passe au pré-chorus ou pré-refrain. Alors dans ce pré-refrain, je change d'accord avec la guitare et je les arpège, c'est-à-dire qu'au lieu que les notes de l'accord soient jouées en même temps, elles sont jouées séparément et successivement pour donner un côté plus naturel à la guitare virtuelle. Ensuite, la clochette revient avec une mélodie différente et j'ai aussi ajouté des percussions avec un delay qui est un effet d'écho. J'ai utilisé un son de guitare électrique à certains moments dans ce pré-chorus, mais aussi dans le refrain et l'outro. J'ai placé une voix féminine et enfin, juste avant le refrain, j'ai ajouté une nouvelle guitare électrique du VST Morphine, encore une fois, avec une nouvelle suite d'accords en arpège qui prépare l'arrivée du refrain que je vous laisse écouter tout de suite. Alors, pendant ce refrain, il y a bien sûr la mélodie à la guitare, la mélodie principale, et j'ai ajouté trois nouveaux éléments. Alors, il y a la voix d'une femme que j'ai découpée, et ensuite, j'ai placé les différentes voix coupées pour créer une nouvelle mélodie. Dans la deuxième partie de refrain, j'ai utilisé une flûte chinoise, donc je ne me rappelle plus de ce que c'est précisément, mais c'est bien une flûte chinoise. Et à la fin du refrain, un autre son de flûte qui ne jouera qu'une seule note. Sur tous ces éléments, j'ai mis beaucoup de reverb pour vraiment avoir un côté planant et flottant. Le but ici, c'était vraiment de donner un effet lointain et créer une atmosphère reposante où tous les éléments semblent tous se fondre les uns avec les autres. Après le premier refrain, j'ai répété une seconde fois le premier couplet, le pré-refrain et le refrain, sans changement. Et après le deuxième refrain, vient donc l'outro qui vient conclure l'instrumental. Alors, dans cette dernière partie, j'ai enlevé la batterie et la basse pour finir sur quelque chose d'encore plus calme. J'ai changé les accords à la guitare et je les ai encore placés sous forme d'arpèges pour donner un côté plus naturel. J'ai aussi ajouté des ornements pour ajouter de l'expression à la guitare. J'ai laissé la voix féminine, le son de guitare électrique et les flûtes présentes dans le refrain. Et le tout se finit par un dernier accord à la guitare avec la voix féminine qui se pose sur celui-ci. Et des petites notes de guitare qui annoncent que le voyage est terminé ou qu'au contraire, celui-ci ne fait que commencer. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce processus de création pour l'instrumental Somewhere in China. Pour ceux qui veulent télécharger gratuitement l'instrumental, elle est disponible gratuitement sur mon SoundCloud en tapant simplement SoundCloud Andrea Maya sur Google et vous tombez directement sur l'instrumental. Et sinon, elle sortira le 10 décembre prochain sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous laisse l'écouter en entière dès maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt dans l'oreille curieuse.
Merci beaucoup Mehdi. Moi je sais pas comment on fabrique des morceaux, donc ça me rend très curieuse. Il y a un son qui m'a frappé aussi dans ce morceau, là je dérive, c'est le petit bruit du réveil qui fait bip bip. Tu nous en as pas parlé de ça?
C'est vrai que à chaque fois on m'a parlé de ça et ouais, c'est une petite percule en fait que j'ai rajoutée.
Ça réveille.
Pour moi, c'était pas vraiment important, mais c'est vrai que quand on en parle, on en parle souvent. Donc, j'aurais peut-être en parlé.
Bon, en tout cas, c'est chouette. Et peut-être qu'un jour, tu nous parleras d'inspiration et de plein d'autres choses. Bon, on écoute le titre en entier parce qu'on a envie de l'écouter comme ça maintenant.
Thank you.
très grand merci à José et Mehdi qui ont fait en grande partie cette émission. C'est la fin de l'Oreille Curieuse. Je vous remercie de l'avoir écoutée, quelles que soient les choses que vous étiez en train de faire ou de fabriquer derrière le poste. Vous pouvez réécouter l'émission en intégralité et en podcast sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Vous cliquez sur programme, vous cliquez sur l'Oreille Curieuse et vous y êtes. Demain, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais ça fait un petit moment, il n'y aura pas de l'Oreille Curieuse. Il y aura Funkadelica, une émission spéciale qui va durer 1h50 pour vous ambiancer sur de la soul et du funk. Et mercredi, on se retrouvera à 18h10 avec la chanteuse Sally. D'ici là, j'attends vos retours, vos plaintes ou vos encouragements sur cette émission. Ça peut se passer par mail à l'adresse prog.radio-g@gmail.com ou bien via nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Vous tapez l'Oreille Curieuse Radio G, Facebook, Twitter et même Instagram. On commence à être partout. À 19h, dans quelques minutes, vous allez retrouver La Case de Seb, l'émission des actualités BD, comics, manga. Je vous souhaite une magnifique soirée. À mercredi.
Can you see me? Regret. would you rather fall? A plastic bag or a clock? What would you rather fuck your cloud? Or a river? Or a tree? Or would you rather fuck me? Would you rather fuck me?
Lundi 16 novembre.